À propos du livre de Mariana Barbet, il serait intéressant quand même que tu nous dises deux mots sur Mariana Barbet, parce que tu disais tout à l'heure, c'est un personnage un peu particulier. Que
oui,
fait-elle
donc,
tout
alors, c'est une femme qui, donc, comme tu l'as relevé au début, est d'origine américaine, mais s'est installée en Suisse depuis très longtemps, puisqu'elle est venue quand elle avait, je pense, 20 à 25 ans. Elle a épousé un pasteur vaudois, elle a 3 enfants. Et son mari est mort dans des circonstances assez dramatiques. Il a eu un cancer qui l'a emporté en quelques mois. Et elle a raconté d'ailleurs après la fin de son mari toute la difficulté qu'il y avait à vivre cette approche de la mort et comment elle, qui était encore jeune à l'époque, a dû affronter la solitude. Une solitude affective, une solitude corporelle, sexuelle, qui pour elle était vraiment difficile. Et ça a donné donc le premier livre qu'elle a écrit, qui est aussi publié aux éditions Zoé, qui s'appelle « Nous étions deux coureurs de fond » et qui a eu il y a quelques années un grand succès de librairie. Qui était lui donc un livre essentiellement autobiographique. Il y a d'ailleurs dans ce livre « Nous étions deux coureurs de fond » deux voix, parce qu'elle a même intégré au livre quelques réflexions de Clément Barbet, son mari, qu'il a écrit de trois choses au moment où il savait que l'issue de sa maladie était fatale. Enfin, il y a tout un dialogue autour de la mort et de la séparation qui est alimenté par elle et par son conjoint. Après ce livre, Mariana, je pense, a dû réfléchir beaucoup avant de se relancer dans une écriture plus personnelle, parce qu'elle a donné toute son émotion dans « Nous étions deux coureurs de fond ». Mais l'écriture, pour elle, ce n'est pas seulement arriver à publier un livre, c'est aussi une activité de communication, puisque c'est elle qui, en Suisse romande, a en fait débuté avec les ateliers d'écriture. Actuellement, il y a pas mal de gens qui lancent des ateliers d'écriture dans différentes occasions, soit des occasions privées, soit dans des organisations plus officielles. Il y en a par exemple aux cours commerciaux du soir, on peut s'inscrire à des choses de ce genre. Elle sait donc, d'ailleurs c'est beaucoup plus courant aux États-Unis que chez nous, hein, c'est writing. Et Mariana Barbet travaille maintenant essentiellement avec des groupes d'hommes et de femmes qui veulent se lancer dans une expérience d'écriture. Alors j'ai eu l'occasion d'ailleurs de participer à deux de ces stages, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et c'est vraiment une expérience extrêmement intéressante, extrêmement vivace et qui pour elle compte beaucoup. Donc elle a en fait deux volets dans sa recherche, dans sa relation à l'écriture.
Change de mort quand je suis toute seule chez moi. Je peux pas louer un papa, je peux pas louer une maman.
Oui, alors si on revient un petit peu à ce que signifie pour cette femme écrivain ses livres, il y a une recherche pour elle très importante dans la forme et la mise en mots. D'abord, sa langue maternelle, c'est l'anglais. et elle manie donc parfaitement bien le français, mais c'est pour elle une espèce, je pense, de reconstruction quand même différente que si le français avait été sa langue maternelle. Elle accorde beaucoup, beaucoup d'importance aux formes. Grâce à elle, par exemple, j'ai eu l'occasion de découvrir des écrivains dont on parle peu dans les cours traditionnels, mais qui sont des gens extrêmement intéressants sur le plan de la mise en mots. Et c'est un travail qu'elle fait avec beaucoup de gens, donc elle est extrêmement intéressée à cela. Et elle nous a raconté d'ailleurs que pour elle, l'écriture est un travail très long. Elle a fait des années pour rédiger ce livre qui n'est pas énorme. Et elle a repris, elle nous a dit, il y a certaines phrases que j'ai reprises jusqu'à 50 fois pour les polir, pour vraiment arriver à une production parfaite, enfin au moment voulu, disons, arriver à un stade qu'elle ne peut plus améliorer. Et ça, je crois que c'est aussi c'est quelque chose qu'on sent très fort dans ce livre, parce qu'il y a effectivement une sorte d'accomplissement dans l'écriture qui est très important et qui est au-delà de l'histoire.
Mais qui est accomplissement de l'écriture au niveau du sens ou au niveau de l'esthétique ?
J'aime pas tellement, je n'utiliserai pas le mot esthétique. Ce sont des phrases qui sont, oui, j'aimerais reprendre l'image que je prenais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est poli comme des galets par l'eau, c'est-à-dire que elle a tourné la phrase dans tous les sens, ajouté, enlevé, jusqu'à ce qu'elle soit, qu'elle s'intègre parfaitement bien dans un ensemble. Mais ce n'est pas un jeu d'écriture. C'est pour arriver justement à l'adéquation la meilleure entre le sens et les mots. Je pense que ça, c'est effectivement le travail de l'écrivain. Mmh. Alors, ça ne va pas dans une écriture vraiment poétique. Il y a bien sûr les techniques traditionnelles, métaphoriques et autres qui permettent d'avoir du plaisir dans la lecture. Mais le sens est aussi effectivement fondamental. Il n'y a rien sans le sens.
Est-ce que tu nous lirais un ou deux extraits pour que nous nous rendions compte de ce que tu nous expliques là maintenant ?
Oui, alors il y a donc entre autres un passage où elle parle de sa relation avec l'homme qu'elle a rencontré après son veuvage et avec lequel elle a une relation amoureuse qui effectivement au début est très intense et dont elle raconte d'ailleurs au fil des pages la lente destruction, en tout cas l'ennui qui arrive et puis l'évidence que la relation ne pourra pas continuer, qu'elle se retrouvera éventuellement avec un beau souvenir, peut-être avec une blessure de plus, ça c'est toute la question du livre, mais aussi devant l'inéluctable que cette relation devait s'accomplir. Je l'écoutais, sa respiration et la mienne qui s'y mêlaient, mais j'entendais à peine les mots, seulement ce bruissement, ces souffles qui peu à peu se mettaient à résonner, à s'amplifier en une vaste rumeur, comme une ville s'animant aux heures de pointe, jusqu'à ce que nous en devenions nous-mêmes les rues et les boulevards, les artères et les périphériques, que nous filions vers les campagnes, traversant les villages. Et voilà Chartres au loin, et Orléans, regarde Mathias, et les causses, et le maquis, et les moutons, et enfin là Mathias, la mer, entends-tu la mer ? Mathias dit alors qu'il m'aimait, et que cela lui paraissait très grand.
Effectivement, c'est frappant de voir cette forme d'écriture. Est-ce que c'est pas trop personnel comme histoire ? Tu penses que les femmes retrouvent justement cette réflexion dont tu parlais tout à l'heure sur ce, elles peuvent ramener le vécu de Mariana Barbet, l'histoire et
Ah oui. Alors je crois que tout à fait, et que disons que sa réflexion, donc où elle s'inspire des mythes grecs, des histoires de transmises depuis si longtemps, elles sont tout à fait accessibles, elles sont racontées d'une manière simple, donc on n'a pas besoin d'être féru en histoire pour se passionner pour la destinée d'Hécate, de Déméter ou de Perséphone, bien au contraire. disons, si j'avais un avis plus personnel à donner sur le livre, c'est que la partie où elle raconte cette relation avec cet homme qui est marié, qui ne va pas quitter sa femme et qui est, en somme, voué à l'échec assez rapidement, c'est une histoire, j'ai envie de dire, assez banale. Et dans ce sens-là, hélas, mais ce qui est banal peut concerner justement tout le monde. Encore faut-il savoir le dire d'une manière qui touche sur le plan émotif. Et je trouve que dans ce sens-là, elle se livre beaucoup personnellement, mais elle reste en dialogue avec ses lecteurs, sans aucun doute. Donc on peut la suivre sans problème. Bon, parfois, une ou deux fois, je me suis dit, en fait, effectivement, j'aimerais presque mieux lire un vrai roman que son histoire, que cette histoire-là où on la sent très fort impliquée. Et peut-être que ça viendra plus tard. Je crois qu'effectivement, comme beaucoup d'écrivains, Mariana est à la recherche d'un style, est à la recherche de thèmes aussi. Et peut-être qu'elle arrivera, une fois qu'elle a écrit ça, à raconter un roman avec tout ce qu'il y a de plus étoffé autour.
Tu disais, tout le livre tourne un peu finalement autour de l'idée, est-ce que ce sera un beau souvenir ou une blessure de plus? Tu peux nous dire quelques mots de plus là-dessus?
Oui, je vais peut-être vous lire un petit passage où quelque chose arrive. Elle parle donc, elle imagine un dialogue, elle, avec Hécate, donc cette déesse qui accompagne les gens jusqu'à la mort. Elle est la plus honorée des déesses et aussi la moins tragique. Celle qui connaît les deux mondes, mais ne règne sur aucun, qui jamais ne tranche ni ne coupe. Elle exerce son art à la croisée des chemins, là où le voyageur s'arrête pour vérifier sa direction. Avec ses trois têtes, non pas deux, mais trois, elle montre le chemin. Sa première tête est celle du lion, animal solaire. Ainsi, déesse de la lune, Hécate s'approprie la source même de sa lumière. Sa deuxième tête, le cheval que l'on dit androgyne. Peut-être bien qu'à 100 ans, on est enfin entier. Et puis cette troisième tête encore, celle du chien qui guide les âmes vers la mort. Petit chien familier qui trotte devant moi, lors de mes longues marches solitaires, fouillant les sous-bois, flairant ici et où là un mulot, dérangeant les corbeaux, revenant me chercher lorsque je m'attarde. Je ne vais pas volontiers vers la mort. Mais ce chien est d'une telle compagnie. Ainsi en elle, Hécate, les règnes sont réunis, le masculin et le féminin, le clair et l'obscur, la naissance et la mort. Entre le haut et le bas, elle va et vient, mobile, libre, centenaire, elle a dépassé l'âge de la dépression. Et je crois que dans ce sens-là, Mariana Barbet nous donne vraiment un message. Il faut vivre tous ces événements pour dépasser l'âge de la dépression.
Eh bien, voilà, j'espère que tout ce que vous nous avez raconté autour de ces nombreux livres nous donneront envie de les lire et d'aller les acheter à la librairie L'Inédite, le lieu privilégié des rencontres et des découvertes, nous le savons bien. Tu voulais dire rajouter encore quelque chose, Annette?
Oui, il y a encore un petit passage que j'avais choisi où elle parle donc de son... J'ai parlé un petit peu de la façon dont elle interprète cette déesse Hécate, mais à la fin, donc, elle imagine un dialogue avec elle. Mathias était-il donc maléfique? Tu voudrais que tout cela soit de sa faute? Non. Je voudrais savoir ce qu'il y avait chez lui pour que je me précipite pareillement en enfer. Alors la réponse d'Hécate, c'est simple, sa virilité. Je veux dire que tu doutais terriblement de toi. Nous avons vu d'ailleurs sur quel sol aride ta féminité a poussé. Qu'un homme grand, puissant, plein de vitalité s'intéressa à toi. Et voilà vite fait la preuve que tu étais une vraie femme. Cela signifie-t-il que je devrais recommencer éternellement? Hécate sourit. Pas forcément. Perséphone, elle, recommence toujours. Elle est enchaînée à sa mère et son destin, tu le sais, c'est l'alternance. Mais toi, tu t'es réconciliée avec ta mère pour ensuite en prendre congé. Tu as enterré tes morts. Tu es devenue sûre de ta féminité et tu n'as plus besoin de faire le détour par l'enfer. Est-ce dire que je ne connaîtrai plus la passion? Plus jamais? Elle attend un long moment avant de répondre. Puis, le désires-tu? Voilà, je pense que ça pose quand même bien le problème du livre et que par ces quelques petits passages, on voit que ça dépasse vraiment une simple histoire racontée, qu'il y a matière à réflexion à différents niveaux et pour toutes les vies.
Effectivement, je crois qu'on pourrait y trouver chacune une piste de lien, de liaison avec notre propre existence. Peut-être pour conclure, tu avais envie, Evelyne, de nous lire une petite page de Liana Badre, parce que nous avons beaucoup parlé avec Michel Stroun, mais nous n'avons pas donné la parole à Liana Badre. Tu as envie de nous lire quelques lignes?
J'ai une petite page là sur... Au fond, justement, sa prise de conscience de sa condition de femme palestinienne révolutionnaire, mais pas acceptée, trop libérée par ses compagnons. Alors, je pourrais lire cette page-là. Pardon, je mets mes lunettes. Le progressisme, c'est d'arracher la pourriture accumulée en nous depuis le jour de notre naissance afin de se fondre dans la société nouvelle. La société de la nouvelle révolution. Ah, n'aurais-je pas dû mieux évaluer les choses, mieux voir certains détails? Tous parlaient de révolution, de libération de la femme, de renversement de l'équilibre des classes dans la société à venir. Moi, comme chacun d'eux, j'y croyais. Je discutais d'idées logiques et considérais que cette révolution sublime était la plus grande réalisation de ce XXe siècle. Mais les regards eurent vite fait de dresser une imperceptible barrière de cristal. L'étincelle du désir apparut sur de nombreuses et sincères lèvres, et j'abhorrai les regards de mes camarades lorsqu'ils se mirent à ressembler à ceux de nos vieux professeurs. La libération, lorsqu'elle dépasse les bornes, n'est plus acceptable, affirmait-il. Tu affiches tes relations sans aucune crainte ni pudeur. Pourtant, je ne renonçais pas à la saveur de l'amour avec mon ami, qui réagissait à tous mes actes et mouvements par des phrases révolutionnaires et une jalousie incendiaire. Il brisa la bougie que je lui avais offerte et se mit à répéter sans arrêt que j'étais une tourmentée sur laquelle on ne pouvait pas compter. Pourquoi ? Parce que je prenais les décisions qui me concernaient personnellement sans le consulter. Que je riais avec n'importe qui sans tenir compte de la vie ou de l'opinion que la personne avait ou pourrait avoir de moi. Il me donnait son avis sur mes amitiés nombreuses et dissipées. Entre guillemets. Il m'annonça que je m'étalais trop et ne pensais jamais à discuter de mes projets avec lui avant de les réaliser. J'aurais dû écouter son avis sur la couleur de ma chemise, la quantité d'eau qu'il me fallait boire et la dimension de mes moindres sourires. Il me voulait sa propriété, aux frontières parfaitement délimitées, et j'aurais dû bannir de ma vie les gens qu'il n'aimait pas, les comportements qu'il ne supportait pas. Tu souffres d'un dédoublement de la personnalité, tu ne sais pas ce que tu veux. Très bien, mon doux ami, mais lequel d'entre nous sait ce qu'il veut? C'est ton amitié et ta sollicitude qui m'importent, et non pas des projets à long terme de fiançailles et de mariage. Ce n'est pas comme cela que tu conserveras ton ami. Hein. Tous les cortèges d'admirateurs ne serviraient à rien si tu le perdais. Comment oublier ces mots chuchotés à mon oreille par cet ami dévoué? Toi, l'ami si soucieuse de mes intérêts, qui t'a dit que le cortège d'admirateurs m'importe ou que seulement je le vois? Crois-tu que j'ai l'intention de l'investir dans une société à responsabilité limitée?
Alors je vous remercie encore toutes les deux, Evelyne et Annette, d'avoir animé cette émission cet après-midi, parce que j'ai pas fait grand-chose là cet après-midi, je me suis beaucoup reposée sur vous. Je vous rappelle que nous avions comme invité, proposé par Evelyne, Michel Stroun des éditions Métropolis, responsable des éditions Métropolis, que nous avons évoqué deux livres. Celui de Liana Badre, édité justement aux éditions Métropolis, Une boussole pour un soleil. Et un
traduit
livre...
de l'arabe directement.
Voilà. Et puis, un livre écrit par Mariana Barbet, qui a pour titre Ma voix ou celle d'écho.
Publié aux éditions Zoé.
Et voilà. Alors, bien sûr, rendez-vous au mois prochain pour notre... Ça fera dernière émission avant l'été.
Oui.
Et nous aurons sûrement plein de belles choses à vous proposer. Et en tout cas, on va rester dans la Palestine, parce qu'en ce qui nous concerne, effectivement, nous accordons beaucoup d'importance à la Palestine. Peut-être pas tout à fait avec les mêmes idées que Michel Strun, mais chacun responsable de ses propos sur les antennes, sur les ondes de Radio Zone. La semaine prochaine, nous recevons Clotilde Alenik, qui est aussi une femme juive, qui se bat dans une association qui réunit des gens, des hommes et des femmes, israéliens et palestiniens. Et ils défendent l'idée d'une terre pour deux peuples. Et elle nous évoque, avec elle, nous évoquerons la semaine prochaine beaucoup les histoires de femmes palestiniennes et des nouvelles de l'actualité concernant les femmes palestiniennes, essentiellement dans les territoires occupés. Alors, je vous remercie toutes les deux. Et puis, à nos auditrices, je demande de ne pas quitter notre antenne tout de suite parce que dans une minute tout au plus, nous nous retrouvons branchés avec Baal puisque nous aurons au téléphone Isabelle qui a une carte postale à nous envoyer, radiophoniquement parlant, c'est entendu, depuis Baal.
That little cute way of flesh with them eyes. They make me feel so happy. They make me feel so blue. I'm falling, I'm stalling in a great big way for you. My heart is jumping, you started something. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble. They're gonna get you in a whole lot of trouble. Oh, baby, them eyes. First time I looked into, and you have a sad little cute way of flirting with. Ah, they make me feel so happy. They make me feel so blue. Falling, I'm stalling in a great big way for you. My heart is jumping, you started something. You'd better look out, little brown eyes, if your eyes sparkle, bubble, get you in a whole lot of trouble. I'm looking for the boy with the wistful eyes. I fell in love with them eyes.
Alors, comme je vous le disais, nous sommes en direct de Bâle avec au bout du fil une chère amie Isabelle qui nous écrit, qui nous envoie par la voix des ondes une carte postale de Bâle. Bonjour Isabelle.
Bonjour Catherine, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, plutôt qu'une carte postale, ça va être une carte invitation pour venir faire un petit tour à Bâle, histoire de changer d'air. Car en fait, les 19, 20, 21 juin se déroulera ici à Bâle un colloque sur le thème théorie, sexe et fiction, organisée par un groupe d'étudiantes du séminaire d'allemand de l'université de Bâle, Engelhof. Et durant ces trois jours, de 9h du matin jusqu'à midi,
oulala,
on pourra écouter des conférences principalement de femmes, philosophes, historiennes, professeurs de littérature, professeurs de germanistique et autres venant d'Allemagne, de Hambourg, de Berlin ainsi que de Suisse. Sur les thèmes suivants, le premier jour, on pourra entendre des conférences sur le thème « À qui profite l'autre, sinon qu'à soi-même » l'autre en tant que catégorie, mystère, sombre continent ou dernière réserve, les divers autres et devenir ce que l'on fuit.
Waouh, qu'est-ce qu'il y a derrière ces titres prometteurs, t'as idée ?
Le deuxième jour, on pourra écouter des conférences sur le thème « Le pouvoir passe-t-il par l'intérieur du corps ?» Écrire le corps, penser le corps et sa sexualité. Et le troisième jour, on pourra, sur le thème, dire presque quelque chose. Le titre est en français et on va pouvoir parler de la science au féminin, l'émancipation, la déconstruction et l'essentialisme. En fait, le but, ou disons le but de ce colloque, c'est très théorique. C'est essayer de savoir quel est le rapport des femmes au savoir et aux sciences, de quelle manière on pense aujourd'hui la relation entre le postmodernisme, le féminisme, au point de vue justement théorique et politique. Alors évidemment, tout ceci se déroulera dans la langue de Marlène Dietrich, feu Marlène Dietrich, puisque...
C'est plus Goethe, c'est Marlène Dietrich.
Ouais, c'est pas Goethe. Et puis, si vous voulez des plus amples renseignements, ou soit le programme, ou vous inscrire, je vais vous donner quand même juste l'adresse. Il s'agit de Sybille Dickmann, Fischerweg 3, 4058 Bâle, et peut-être un numéro de téléphone, c'est le 061 267 34 39.
Tu répètes peut-être ?
Alors, je vais vous répéter. Sybille Dickmann, Fischerweg 3, 4058 Bâle. Le numéro de téléphone 061 267 34 34. Voilà, une bonne raison de faire un petit tour à Bâle, très chargé, très intellectuel. Et au sortir de ça, on pourra...
Heureusement, tu nous proposes des petits chemins de traverse quand même, un pack des choses intellectuelles.
Parce que l'autre proposition, c'est une expérience tout à fait intéressante, beaucoup plus pour le porte-monnaie que pour la tête. C'est aussi un groupe de femmes qui est à la base, cinq artistes suisses, allemands, enfin baloises, qui ont eu envie de remettre un peu sur le tapis le problème de l'art et du commerce. Alors elles ont planché sur ce thème plusieurs mois, jusqu'à avoir l'idée d'ouvrir un petit magasin qui est maintenant ouvert depuis 10 jours à Elisabethenstrasse 36, et dans lequel elles ont mis en vente des multiples. Alors il s'agit d'objets qui sont faits par une centaine d'artistes suisses et allemands, des objets fonctionnels, pas fonctionnels, uniques, mais qui ne sont en tout cas pas des œuvres d'art. Ça veut dire que c'est tous des objets qui sont à plusieurs exemplaires. C'était justement un peu pour provoquer une autre réflexion, une nouvelle réflexion, puisque le thème, on l'a déjà quand même bien traité, sur ce problème justement de comment vendre l'art, où le vendre, sous quelle forme le vendre, et quels sont au fond les acheteurs, ou quels sont les clients potentiels, quels sont les intéressés à ces objets d'art. Alors, le détour vaut vraiment la peine, parce que le petit magasin, il est vraiment tout petit.
T'es déjà allée, donc ?
Moi, je suis allée. Évidemment, c'est dans la maison où j'habite, donc je suis
une
des premières
clientes.
Non, mais en tout cas, visiter. C'est très intéressant parce que c'est vraiment un tout petit magasin, fait comme une petite Migros, si j'ose lâcher le mot, où tout y est, la caisse, on a presque le chariot, et les objets sont absolument insolites, et soit justement fonctionnels, comme des brosses en forme de chaussures, ou du savon en forme du sais quoi, il y a toutes les formes, soit des images, ou des cadres, ou des choses plus artistiques. Alors le détour vaut vraiment la peine. Ceci se passe jusqu'au 27 juin, parce qu'elles n'ont pas l'intention de mener ça à long terme, c'est vraiment une très courte expérience. Moi, j'ai encore parlé hier avec elles ont pas mal de clients, pas mal de visites, de gens qui sont vraiment très curieux de voir ça, mais au fond, elles attendent encore un tout petit peu, elles ne peuvent pas encore dire grand-chose sur l'expérience en elle-même, il faudra pour ça attendre encore un petit moment. Voilà pour ce qu'il en est de ma petite carte invitation. Sinon, on peut toujours évidemment faire un petit tour au bord du Rhin, au bord du zoo, dans le zoo, il y a des tas de choses à voir.
Les habituelles balades baloises.
Les habituelles balades. Et sinon, il faut aller absolument en Alsace, qui est juste de l'autre côté de la frontière, parce que c'est vraiment un coin magnifique à faire en vélo. Mais de tout ça, je vous parlerai une prochaine fois. La carte postale suivante sera plutôt une vraie carte postale. Alors d'ici là, je vous embrasse toutes et à bientôt.
J'espère, Isabelle.
Au revoir.
Parce que là, il y avait un très long moment qui s'était écoulé depuis notre dernière carte postale.
Oui,
je crois que nos auditrices ont dû oublier même qu'on avait une relation épistolaire avec toi. Alors.
On se rattrape.
D'accord.
À bientôt.
À tout bientôt, Isabelle. Merci.
Thank you. only stand and cost your fortune. Just be not out of the woods.
Alors voilà, aujourd'hui, remue-ménage, c'est fini. Mais oui, tout arrive. Une heure et demie, c'est très court finalement. Donc je vous rappelle qu'on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Clotilde Alenik de l'association du peuple avec des amis israéliens et palestiniens pour évoquer la cause des femmes palestiniennes. Et j'espère que vous considérerez que cette association et Clotilde Alenik, tout en étant des jeunes voix, sont là pour défendre la cause des Palestiniens, contrairement à ce que disait Michel Strohn tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne semaine. Et à tout bientôt, et c'est la lune qui se lève en plein avec le soleil.